Je propose qu'on démarre avec les réflexions de Bernard, qui va nous faire rêver, puisqu'il a intitulé son intervention, s'il n'a pas changé le titre, « Les ressources oniriques de la montagne résonnent-elles sur la ville et son dynamisme économique ?» Alors, je ne sais pas si « résonne », c'est dans le sens de la raison ou de la résonance. Tu vas nous éclairer, parce que c'est marqué dans le sens de la raison.
Je crois que c'est « raisonner
D'accord, donc il y a une petite faute d'orthographe, vous nous excuserez. Voilà, donc on va raisonner comme les sonnailles dans les alpages. Bernard, à toi.
Merci beaucoup. Coucou, me revoilà. Je voudrais, là, dans cette présentation, essayer de vous convaincre que, finalement, un rêve de montagne, c'est beaucoup mieux que d'avoir du pétrole. Bon, alors il va falloir maintenant que je vous essaye de vous expliquer ça. Un rêve de montagne, ça veut dire que la montagne, c'est une ressource. J'ai mis une ressource onirique parce que c'est au fond par rapport à ce qui a été dit sur le désir de montagne, une vision très liée à la perception qu'on a de la montagne, qui fait contraste avec une autre vision de la montagne, qui est l'exploitation des possibilités de la montagne. Parce que vous avez finalement deux façons de considérer le rapport entre la ville et la montagne. Ou bien la montagne est dotée d'un certain nombre de ressources, d'un gisement de ressources, que ces gisements de ressources peuvent être activés, et on les prend les uns après les autres. On a eu dans la table ronde précédente des développements tout à fait passionnants sur différentes façons d'exploiter, au bon sens du terme, les ressources montagnardes. Notamment, on a eu tout ce qui concernait la création artistique avec le passage des diapos que tu as évoqué tout à l'heure, le rapport aux animaux de la montagne, etc. On a eu les chemins du baroque et un certain nombre de possibilités qui nous changent de l'exploitation brute de l'or blanc. Alors, c'est déjà une position par rapport aux ressources montagnardes qui est intéressante. Dans mon jargon personnel, j'ai tendance à dire que l'exploitation de la montagne, par exemple dans les stations dites ex nihilo, où on vend finalement de la pente et de la neige, de la qualité de neige et de la pente, au mètre carré, quoi, ça, c'est une ressource qu'on a appelée générique. C'est-à-dire que quels que soient les lieux dans le monde où vous avez de la pente avec de la neige dessus, vous pouvez vendre la même chose. Donc, il y a un marché mondial et il y a une concurrence. Lorsque l'on utilise des ressources montagnardes plus différenciées, comme les chemins du baroque, par exemple, là, on introduit une dimension fondamentale de différence, c'est qu'on va passer à la notion de spécifique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va dire, oui, mais c'est cette montagne-là plutôt qu'une autre. Donc, on n'est pas dans un produit standard lié au marché concurrentiel. Mais on peut faire la même chose avec les plages, hein, des mètres carrés de sable chaud et des journées d'ensoleillement qui sont toutes les mêmes. Et le marché se déplace autour de la Méditerranée. Ça a commencé en Espagne dans les années 60. On est rendu en Croatie aujourd'hui. Bon, alors ça, c'est le marché générique. Donc, en spécifiant l'utilisation de la montagne et de ces différentes ressources particulières, alors on passe au spécifique. Ça offre de grandes possibilités, notamment de pouvoir dire « si vous venez chez nous, vous trouverez ce que vous ne trouverez pas ailleurs ». Ce qui n'est pas la même chose que de dire « venez chez nous, c'est pareil qu'ailleurs, mais c'est moins cher, ou c'est plus sympa, plus rigolo, etc. » Donc vous voyez, ça, c'est déjà différent. Mais ça ne constitue que modérément un renouvellement de la ressource. Il y a déjà des tas de potentiels qu'on peut développer. Mais on peut aller plus loin. On peut considérer que la montagne n'a pas forcément uniquement à être déclinée en un certain nombre de ressources, mais c'est qu'elle est elle-même une ressource. Et une ressource de type onirique, c'est-à-dire à travers l'image qu'on en a. Et qu'elle va être le prétexte à ensuite dérouler non seulement un certain nombre d'activités particulières, mais aussi qu'elle va être un moteur d'innovation. Donc la montagne peut avoir un rôle beaucoup plus global. Et que le fait d'être une ville comme Chambéry entourée de montagnes, ça veut dire qu'il y a un aspect culturel de la montagne qui va constituer un atout. Alors ça a déjà été dit ce matin, c'est pas forcément, il ne faut pas le prendre forcément comme un handicap, mais plutôt comme un atout. Ça ne change pas la montagne, ça change la manière de la regarder. Moi, j'ai une anecdote que je sors de temps en temps, qui est que dans une conférence que j'avais faite, il y avait des gens de l'Ardèche, et il y a un gars qui se lève et qui dit « Mais nous, de toute façon, on est des Ardéchois, on est mal considérés, bouffeurs de châtaignes, etc. » Et puis, argument massu, il me dit « En plus, dans Ardèche, il y a Dèche. » Je dis avec ça, vous allez avoir du mal à profiter de la montagne pour vous développer. Parce que si vous avez ce regard sur votre propre terrain qui est de cet ordre-là, c'est mal parti. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que la montagne, ça peut être pris comme quelque chose, comme un atout formidable globalement, pour ce que ça représente, pour les valeurs qu'on estime que ça représente. Et ce sont finalement, il y a un certain nombre de villes aujourd'hui qui l'ont compris. Et c'est ce qu'on peut appeler l'innovation culturelle. Si on fait un petit tour historique rapide des différentes formes d'innovation urbaine, on voit qu'il y a eu une première vague qui a été l'industrialisation des villes, standard. Et puis, pour aller vite, ça a été ensuite l'innovation cognitive. Alors, c'était tous les fameux discours issus des modèles états-uniens en particulier, où il fallait avoir une rencontre entre ceux qui savent et ceux qui font. Donc université, recherche et entreprise. Mais en même temps, avec ce concept de start-up qui est l'entreprise d'abord prototypaire, si j'ose dire, chez les prototypes, puis ensuite qui s'élargit à la grande production. Cette ressource, la ressource cognitive, est encore assez largement exogène. C'est les villes capables d'attirer. C'est toute la notion de, comment dire, pour attirer le savoir qui était en jeu à ce moment-là. Aujourd'hui, on a dans tous les colloques internationaux, etc., c'est la ville créative qui devient quelque chose, enfin, c'est le must de l'innovation. Mais la ville créative, ce n'est pas uniquement faire venir des créatifs. Hein, vous savez, c'est la thèse de Richard Florida qui dit qu'il faut qu'il y ait des gens créatifs, des artistes, et même des communautés homosexuelles et des orchestres de rock'n'roll pour pouvoir faire du développement dans les villes. Je simplifie évidemment un petit peu, mais en gros, c'est ça la thèse de Florida. Là, ce n'est pas seulement faire venir, mais c'est susciter ce que moi j'appelle une offre de site. C'est-à-dire, ce n'est pas le dynamisme des entreprises prises les unes à côté des autres, mais c'est un ensemble qui se meut et qui se promeut avec des croisements entre les entreprises. Et pour ça, il faut qu'il y ait un souffle. De ce point de vue-là, la montagne peut être un souffle. Alors, je vais vous donner un exemple dans un pays plat, histoire de faire jouer le contraste. Vous avez une ville en Belgique qui s'appelle Mons, qui est la capitale du Borinage, la capitale du Hainaut, qui est le pays du charbon. On a fermé les mines de charbon il y a 30 ans en Belgique. Donc, c'est une ville sinistrée. Et on pouvait enlever l'accent aigu. Donc, c'est une ville où il y a plein de commerçants qui ont fermé. Il y a des taux de chômage élevés. C'est une ville qui a du mal à s'en sortir. Mais vous savez ce qu'ils ont fait. Certains d'entre vous le savent. Pour l'année 2015, c'est la capitale européenne de la culture. Autrement dit, un coup de culot absolument incroyable, la ville de Mons en Belgique, qui fait 100 000 habitants, c'est pas une grande ville non plus, a réussi à être capitale culturelle de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, je suis allé visiter ça récemment. C'est assez étonnant. Ils ont dit, bon, on est une ville sinistrée, on n'a apparemment que des handicaps. On va prendre quelque chose, on va tirer le fil. Alors, ils avaient deux... C'est pour ça que je vous dis qu'à partir de la montagne, on peut faire beaucoup de choses. Ils avaient deux pistes. La première piste, c'est Verlaine, a été emprisonné à Mons, après avoir tiré sur Rimbaud. Événement historique, et ils étaient vachement fiers de ça. Mais ils ont commencé à réfléchir en disant, un mec en tôle, même si c'est Verlaine, c'est peut-être pas une promotion gigantesque de la ville. Mais alors, ils ont coup de bol, mais encore faut-il le regarder et être, se préoccuper de ça. Il y a eu un deuxième fait intéressant, c'est que le peintre Van Gogh, avant d'être peintre, était prédicateur. Alors je ne sais plus si c'était Baptiste ou quelque chose comme ça. Et il a commencé sa prédication dans le borinage, auprès des gens de Mons, de, qui travaillaient dans les mines. Et c'est là qu'il a commencé à dessiner et que sa vocation de peintre est née à Mons. Ni une ni deux. Ils ont fait un musée dans la maison qu'il avait occupée et ils ont sorti ça comme en disant « C'est à Mons que naît la créativité. C'est à Mons que la vocation de peintre de Van Gogh est née. » Donc il y a un esprit là, hein, vous voyez. Ils ont vendu ce truc-là. Et du coup, ils développent des activités de haute technologie sur la base de ce qu'on pourrait appeler un prétexte. Donc, un accident historique, c'est ça leur pétrole. Par rapport, vous voyez, c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au début, qui était le pétrole. Ça, il vaut bien mieux avoir un rêve de montagne que du pétrole. C'est parce que le pétrole, ça provoque de la rente. Quand je dis le pétrole, c'est tout ce qui est richesse qui nous est donnée comme ça, qui tombe du ciel. La richesse qui tombe du ciel, vous savez que le pays le plus riche du monde, c'est la République démocratique du Congo, qui en même temps est un des pays où le PIB par tête est le plus bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a du pétrole, de l'or, du diamant, du machin. Il y a même des terres rares pour mettre dans les téléphones. Enfin, il y a tout. Simplement, il y a ce qu'on appelle quelquefois le syndrome hollandais ou la malédiction du pétrole qui fait qu'il y a des systèmes de détournement. Puis surtout, si vous êtes dans une situation de rente, la rente est confisquée par une partie de la population et finalement, c'est désincitatif au développement. Tandis que les ressources de type ressources territoriales, comme par exemple être un lieu culturel, jouer sur la spécificité culturelle de son lieu, etc., c'est quelque chose qui vous oblige à mettre en chantier une action. Ça vous oblige à déclencher des processus de développement. Si vous êtes dans la rente, vous ne déclenchez pas de processus de développement, vous essayez d'en piquer le plus possible. Donc là, il y a une chance à saisir pour les régions qui n'ont pas d'orientation ou de facilité a priori. Je ne dis pas que quand on découvre du pétrole, il faut fermer le puits, mais encore que. Mais c'est surtout pour des régions qui cherchent à se positionner ou à rebondir. Où là, on a une stratégie qui va partir du culturel. Et à partir de ça, il faut imaginer des stratégies collectives. Et là, on rentre alors dans un système assez différent. Je pense que j'ai plus beaucoup de minutes, là. Allez, une. C'est simplement pour finir là-dessus, c'est que ça va se traduire de façon... J'aurais voulu pouvoir vous donner, développer un peu ça, mais ça va se traduire concrètement, notamment dans deux grandes directions. On vous a dit que le résidentiel, c'était intéressant. C'était en tout cas quelque chose qu'il fallait regarder parce que quand vous avez des potentiels touristiques, ça peut enclencher du développement dans la manière de capter ses revenus. Mais le résidentiel, c'est aussi une situation qui permet à une région d'évoluer, qui permet à une région de rebondir. Pourquoi ? Parce que, alors en matière de montagne, on a vu, j'ai quelques exemples, mais qui sont plutôt dans le Vercors, mais enfin bon, peu importe, c'est que vous avez du résidentiel, il y a beaucoup de gens qui viennent, notamment pour pratiquer des sports de montagne. Eh bien, on est passé du résidentiel au productif à cause du point de départ résidentiel, qui a mis en situation un besoin de matériel de montagne, etc. Comment s'appelle cette boîte qui fait le matériel de montagne et les casques, les trucs Petzl, voilà, merci. La naissance de Petzl, c'est réponse aux besoins, c'est passage du marché résidentiel qui est arrivé sur le Vercors par des produits qui sont en fait des produits industriels. Donc vous avez des mutations possibles à partir de l'exploitation de cette idée culturelle au départ et à partir de l'exploitation du fait résidentiel, mais il faut le transformer. Donc il faut toujours qu'il y ait des stratégies. Et puis, dernier point, puis je vais conclure là-dessus. Mais oui, j'avais un petit exemple que je trouvais intéressant. Vous savez, quelle est la ville qui, du point de vue des hautes technologies de conservation de toutes les pièces de musée, qui est en top au monde entier avec peut-être 15 000 emplois à la clé, c'est la ville de Florence. C'est-à-dire la ville de Florence est partie du fait que c'est une ville musée pour devenir au top sur les technologies de pointe dans le domaine de la conservation. Et puis, enfin, il y a un autre phénomène qui se développe beaucoup, et on en a eu plein d'exemples ce matin, c'est l'innovation sociale, ce qu'on appelle l'innovation sociale. Alors peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais innovation sociale, on voit bien que c'est face à la crise actuelle de réponse des collectivités territoriales qui diminuent les subventions, qui diminuent leur action, mais et qui également ne savent plus trop bien comment se situer, on a la montée des initiatives collectives pour justement créer alors ce que moi j'appelle une offre de site, mais qui est en fait une action collective et qui nous amène à la même conclusion finalement que ce que j'ai dit ce matin, c'est que donc c'est le rapport entre les gens qui est en cause dans toutes ces innovations-là. Et c'est donc une question de démocratie. Voilà, merci.